RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous comme tous les jours, de 9h à midi. On vous attend au 32-16 pour discuter, pour débattre. Mehdi Guézard est des nôtres, chef d'entreprise. Nous sommes avec Bruno Poncé, qui est cheminot et syndicaliste. Et puis c'est Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, qui nous accompagne. Tout à l'heure à 11h20, on aura un GG 7 et match sur les anti-réformes. Est-ce qu'ils ont raison de bloquer le bac alors que c'est les épreuves spécialités qui commencent? Une équipe dit oui, Bruno et Kaouter, une équipe dit non, Mehdi et Olivier. Et vous venez en discuter avec nous au 32-16. Le à vous de choisir à 11h. Deux sujets de discussion. Carburant, est-ce que vous craignez la pénurie? Apparemment, ça commence à être compliqué. La situation commence à être compliquée dans le sud-est. Et puis, on a un rapport très attendu aujourd'hui, notamment sur la sécheresse. Le rapport du GIEC avec déjà des restrictions qui sont en place. De quel sujet voulez-vous que l'on parle ensemble au 32-16? Vous votez sur notre site internet rmc.fr. En attendant, revenons sur ce qui se passe encore dans la contestation de la réforme des retraites. Ce sont ces élus qui se retrouvent menacés physiquement, verbalement, des permanences vandalisées et taguées. Est-ce qu'il faut dire stop aux violences? 32-16 pour en discuter avec les GG. Écoutez la présidente de l'Assemblée nationale, madame Yaël Braun-Pivet.
RMC, les grandes gueules.
Nous avons une démocratie qui ne va pas bien, où certaines personnes estiment qu'il faut passer par la violence contre ceux qui s'engagent. Dans quel pays vous voulez vivre? Dans un pays où les élus risquent leur peau, risquent leur vie, parce qu'ils s'engagent?
Alors, nombre d'élus ont réagi, notamment sur les réseaux sociaux, en postant des photos. C'est le cas de la députée Agnès Evren ou du député Éric Ciotti, qui ont vu leur permanence vandalisée, ou sur les réseaux sociaux. Ils ont reçu des menaces. Ne sous-estimons plus le danger, dit la députée LR Agnès Evren. Chaque menace qui fera désormais l'objet d'une plainte, puisque elle a menacé d'être guillotinée. Et puis, quant à Éric Ciotti, c'est sa permanence sur le port de Nice qui a été vandalisée. Vous voyez, pour madame Evren, on lui a écrit ferme ta gueule, suppôt de Macron. La guillotine sera aussi pour ta gueule. Voilà. Les têtes tomberont, ton tour viendra. Quant à Éric Ciotti, donc c'est sa permanence sur le port de Lys qui a été caillassée. La motion où le pavé et les vitres ont été brisés, vandalisés. Il a annoncé bien sûr qu'il porterait plainte. Alors ces violences, est-ce qu'on dit stop, quel que soit le contexte, quel que soit le degré de contestation et de colère, stop, on ne menace pas physiquement, verbalement les élus. 32-16 pour en discuter avec les grandes gueules.
Déjà, ce ne sont pas des manifestations spontanées. C'est l'expression qu'on a entendue dans la bouche de certains journalistes. Il n'y a rien de spontané dans ce qu'on a vu ce week-end. Elles sont organisées par l'extrême gauche, soit la LCR, soit Révolution Permanente d'Anas Kazib, qui apparaît d'ailleurs sur certaines vidéos. Il y a quelques délégués CGT radicalisés ou aux forces ouvrières. Je rappelle néanmoins que Philippe Martinez et Laurent Berger, les deux patrons des deux principaux syndicats français, ont dénoncé ces violences. Mais sur le terrain, malheureusement, il y a quelques jusqu'au boutistes. Il y a d'ailleurs des gilets jaunes violents qui ont rejoint cette foule de gens qui sont pas très nombreux. Hein. À chaque fois, c'est quelques milliers de personnes qui ont manifesté depuis jeudi dernier. Et donc, on vandalise les permanences, on casse, on brûle les poubelles. Et à Paris, c'est pas ce qui manque. On bloque aussi des endroits. Est-ce que cette stratégie du chaos revendiquée par Bruno Poncet, nous en parlait tout à l'heure, est-ce que vraiment c'est efficace? Ou est-ce qu'au contraire, ça va pas profiter au parti qui incarne l'ordre, à savoir celui qui est en place, Emmanuel Macron, et puis ceux qui pourraient venir après, comme Marine Le Pen? Est-ce que finalement, ça va pas desservir la cause?
Bruno?
Non, mais Olivier se trompe sur plein de trucs. Moi, je trompe vraiment.
Sur ce que j'ai dit, factuellement, vas-y, dis.
Oui, factuellement, tu peux te tromper. Déjà, l'extrême gauche organise rien. Tu vois, c'est quand même des trucs spontanés. Tu peux penser ce que tu veux.
Après,
il y a vrai. Non, mais les chacun son tour, t'es gentil. Je t'aime beaucoup, mais.
Bien sûr que c'est organisé.
Là, depuis le début de l'émission, j'ai dû parler 1 minute 30 et pour dire que de conneries. Donc là, j'essaie d'être sérieux un peu. Sur la violence, tu vois, Olivier, il y a un sujet qu'il faut bien que tu comprennes. C'est que là, t'es dans un pays où il y a un problème de pouvoir d'achat. On te parle de crise. Depuis un an, avec la guerre en Ukraine, on est en train de t'assommer en te disant à cause de l'Ukraine, ton essence coûte plus cher, ton blé coûte plus cher. Là, les prix augmentent. Donc là, t'as une vraie colère qui monte. Et cette colère, soit à un moment tu l'écoutes, soit tu t'en fous et en plus tu vas au mépris et tu te fous de leur gueule. Moi je te rappelle quand même que depuis deux mois là sur ce débat sur les retraites.
Tu justifies la violence.
Non, je la justifie pas, j'ai pas fini mon propos, mais t'as raison de me couper comme ça, t'as sûr d'avoir raison.
Non, mais j'essaie de comprendre.
Non, mais tu vas comprendre très vite, tu vois, moi je suis assez clair. Depuis deux mois, t'entends des députés Renaissance, des députés même, enfin des Ciotti et d'autres, et des Retailleau qui ont méprisé les gens. Enfin, moi quand j'entends des Patriats qui t'expliquaient que tous les métiers ont des exosquelettes pour faire déménageurs ou travailler dans des métiers difficiles, tu vois bien à quel point ils sont déconnectés. Donc il y a un moment, cette colère là que t'entends pas. Et puis que derrière, tu continues, tu rajoutes. Le 49-3, c'est qu'une goutte, c'est le goutte d'eau qui fait déborder le vase, quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'écoutes pas et les gens montent. Et là, mon gars, personne ne va la tenir, cette colère. Et moi, je te le dis, la violence, c'est pas la solution, mais la violence, c'est l'outil que les gens, il leur reste que cet outil-là. Tu votes pour des mecs, on en a foutu de ta gueule, qui vont demander un autoroute à Macron pour voter une loi dégueulasse. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il nous reste? Et puis, faut pas oublier un truc aussi, c'est que les gens dernièrement ils disaient Nunez, il est vachement mieux que l'allemand machin. Ouais, mais Nunez, il commence à nasser des gens avec leurs gamins. Moi, je connais des gens avec des enfants qui ont été nassés, et je connais des journalistes qui ont été tabassés. Tu relais des trucs de Clément Lannot, qui est un journaliste qui est au cœur des manifs à chaque fois. Clément Lannot, il a été tabassé quand ils se sont rendus compte qu'il a une carte de presse, un brassard, ils ont commencé à rougir un peu, tu vois. Ils voulaient le mettre dans un panier à salade. On en est là aujourd'hui. Donc cette violence-là, elle est des deux côtés, et la première violence, ça vient d'eux. Et ben la réponse, ça va commencer de plus en plus violente.
Kauter.
Donc je viens de te dire qu'on est tous ici pour dire des choses sérieuses et qu'on a tous dit des conneries en première partie d'émission. Donc voilà. Donc ceci étant dit, effectivement, moi je pose une question avant de donner mon avis. Qu'est-ce qu'il reste aux manifestants comme moyen d'action pour se faire entendre par le gouvernement ? Ça fait trois mois. Non, mais je te pose la question. Ça fait trois mois que les gens manifestent dans un calme absolu avec des services d'ordre organisés.
À ces gens-là.
Avec des services d'ordre organisés et qu'ils ont des revendications.
C'est pas les mêmes.
On peut. Et qu'ils ont des revendications. Ils n'ont pas été entendus. OK? On vote quand même, et même pas on vote. On impose le 49-3. Donc on empêche aussi les députés de voter. Parce que si ce gouvernement était sûr de lui, il aurait fait voter cette loi. Enfin, il aurait pris le risque d'essayer de faire voter cette loi. Sauf qu'il ne le fait pas. Donc aujourd'hui, les gens, il leur reste quoi en fait? Moi, je pose la question. Bien sûr que c'est pas normal de frapper les gens. Moi, je suis pas pour qu'on frappe. Je suis pas pour qu'on frappe les gens au départ.
Qui, hein.
Au départ.
Ça dépend qui.
Non, je t'explique.
Qu'on était à claque,
les gens, ils disent oui, chaque violence fera partie d'une plainte. Est-ce que nous, citoyens, est-ce que les millions qui sont dans la rue, on a le droit d'aller porter plainte contre ce gouvernement qui nous ignore et qui nous méprise? Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? En fait, moi, je pose la question. Tout le monde dénonce la violence. Tout le monde est unanime. Mais qu'est-ce qu'il reste aux citoyens français comme mode d'expression pour être entendu? Et tu vois, c'est pas notre faute s'il y a cette violence. C'est qu'il y a quelques années, en 2018, on a eu le mouvement des Gilets jaunes. Ils étaient 10 000 dans toute la France. Rien, peanuts. Moi, quand je faisais des manifs contre le. Pardon ? Qu'est-ce que tu m'as dit ?
Non, vas-y, voilà. continue.
Quand on fait des manifs à Marseille contre le mal logement, on est plus nombreux que les Gilets jaunes. Oui. Et le gouvernement est plié, il a lâché des milliards. Et là,
Mais c'est pas les mêmes. Ce que tu comprends pas, Kauter,
c'est pas les mêmes.
Mais non, c'est pas les mêmes. Ceux qui sont poussés notamment par Anas Kazib, on le connaît bien, Anas, il a été avec nous pendant quelques mois.
Mais il n'y a pas que Anas Kazib qui est en colère.
Ceux qui cassent, ceux qui vandalisent, je parle pas de ceux qui sont en colère, vous confondez tout, en fait, c'est ça le problème. Ceux-là, ils sont dans une démonstration idéologique, ils veulent péter le système, ils veulent le chaos parce qu'ils pensent, comme le dit tout à l'heure Bruno Poncet, que du chaos renaîtra je ne sais pas quoi, un monde
des
meilleur.
Des fleurs.
Eux, c'est pas les gentils qui se transforment en méchants. Dès le début, ils sont méchants. Dès le début, ils veulent le chaos. Et là, ils profitent d'une situation, puisqu'effectivement, il y a une colère, ils l'instrumentalisent. Mais il ne faut pas se laisser avoir, parce que ça n'aboutira qu'à une chose, à l'effet inverse. C'est-à-dire que non seulement ils ne seront pas, on ne leur donnera pas gain de cause, mais en plus, ça sera l'inverse. Ça sera plus d'autorité et plus d'ordre.
Qu'est-ce que tu en sais, Simon ? Excuse-moi.
Parce que c'est toujours comme ça que ça se passe.
Quand ils ont tout pété, les Gilets jaunes, ils ont eu gain de cause ou ils n'ont pas eu gain de cause ?
Macron a été réélu, donc tu vois bien. Ben oui,
je te pose une question.
Réélu, Macron.
Est-ce que les Gilets jaunes.
Il a pas été réélu, Macron ?
Je te pose une question, bon, réponds d'abord à ma question. D'accord. On parle des manifestations, pas d'élections.
Oui.
Excusez-moi, j'ai la gorge, elle est en feu. Quand les Gilets jaunes ont tout pété en France, est-ce qu'ils ont été entendus et est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient ?
Ah oui, c'est vrai qu'on a retiré, mais c'est une erreur du gouvernement.
C'est une erreur,
qui
mais c'est
face à la violence.
Oui,
mais on peut pas prôner ça.
Oui, mais excuse-moi, je parle
pas. On n'est pas démocrate.
On parle pas de moi, je te parle du gouvernement, le message qu'il envoie aux gens, en fait.
C'est
que les gens. Ben oui, c'est une erreur, mais en tout cas, c'est
face à la violence.
C'est son mode de fonctionnement. En tout cas, là, ce qui nous a prouvé le gouvernement, c'est que les millions de Français qui manifestent depuis trois mois, il ne les a ni écoutés, ni reçus, ni rien du tout.
Donc tu préconises la violence.
Non, mais en plus, faut que Anas, il n'est pas en train de dire aux gens faut tout péter. Anas, il fait des manifestations paisibles, pacifiques, dans des endroits, bien sûr.
Tu veux voir les images?
Oui, mais les images.
Il s'en prend des agents de sécurité.
Mais non, il s'en prend pas. Le mec l'a poussé dans le dos.
Moins bien payé que lui.
Non, mais arrêtez avec Anas. Anas, vous en faites le diable. Anas, c'est pas une mauvaise personne non plus. Hein.
J'ai dit pas que c'est une mauvaise personne.
Bah, c'est en train de dire que le mec, il fait la sédition, mais non,
oui,
pas
si,
du tout.
Il prône la violence et
il essaie de rejoindre les gens.
Mehdi Ghezzar.
C'est bon.
Tu peux y aller, Mehdi.
Merci.
Tu as ça,
moi, ce qui me paraît bizarre, quand même, c'est que les élus, les députés se rendent compte des menaces maintenant sur les réseaux sociaux, alors que ça fait plusieurs années que tout le monde se plaint de ces réseaux sociaux qui sont incontrôlables.
Tu as raison.
Alors, moi, je suis pas député, je suis pas ministre, je suis pas un homme politique, et pourtant, on se fait insulter tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord. À notre petite échelle.
C'est ce qu'on appelle un AK qui vient de nous tomber dessus. Donc c'est le moment de gagner vos places pour la Coupe du Monde, le match d'ouverture France-Nouvelle-Zélande, ou pour une autre très belle affiche. Vous envoyez Coupe par SMS au 732-16, Coupe par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes devant vous pour gagner vos places pour la Coupe du Monde de rugby et le match d'ouverture. C'est à la rentrée 2023. C'est avec le sponsor officiel de la Coupe du Monde, Total Energy. Et le gagnant sera tiré au sort tout à l'heure en direct dans le Moscato Show, dans le Super Moscato Show. Allez, à vous de jouer, à vous de gagner. On revient à notre discussion sur la violence contre les élus, monsieur Mehdi Ghezzar.
Donc la violence contre les élus sur les réseaux sociaux, maintenant ils en font tout un branle-bas de combat où tu entends Carl Olive qui t'a dit « Moi je me fais escorter pour arriver dans les bureaux de rédaction. »
Carl Olive, c'est Robert Berger.
Où t'as des élus qui ont peur, ils te disent « Non, on doit être surveillé. » Ben voilà. Mais les réseaux sociaux, ça fait longtemps où c'est un défouloir de haine terrible qu'il y a là-bas, où c'est impuni, où c'est très rarement poursuivi. Et quand on veut poursuivre, c'est un nid de guêpe, quoi. On n'arrive pas à s'en sortir. Donc c'est bien déjà qu'ils soient confrontés à cela, d'accord, à la véritable vie, ces élus-là qui maintenant se sentent menacés comme par hasard de décapitation, de je sais pas trop quoi. Parce qu'on sait très bien qu'un mec qui te fait je vais te tuer, je vais te mettre, je vais te couper la tête sur les réseaux sociaux avec un type zéro abonné voilà. Avec un nom là, tu sais très bien que c'est du pipeau.
On en a 10 par jour.
Ça, voilà, non, moi, j'en ai 15. C'est pas une raison, mais pour te dire que ça va pas aller bien loin, quoi. C'est ce genre de mec-là, voilà, ça va pas aller bien loin. Maintenant, par rapport aux violences dans la rue, toute violence est condamnable. C'est un fait, voilà. Mais à un moment, il faut savoir aussi mettre de l'eau dans son vin et un peu écouter la rue. Voilà, moi, c'est ce que je demande. Je demande pas plus.
Maria est avec nous. Bonjour, Maria.
Bonjour,
bienvenue, Maria. Stop aux violences.
Un peu.
Sans condition, oui.
Oui, moi, je dis stop parce qu'on n'avancera à rien. Ça va être des gens qui n'ont rien demandé, malheureusement.
C'est ça qui va en souffrir.
Voilà, c'est des gens qui ont rien demandé, hein, qui n'ont rien voulu. Certains commerçants, d'autres personnes hein, dans les rues, et ainsi de suite. J'estime que le gouvernement n'a peut-être pas bien fait, n'a peut-être pas bien agi, mais certains de nos députés aussi n'ont pas bien agi à l'Assemblée, parce que c'est pas en insultant, c'est pas en gueulant comme si on serait sur un marché, parce que moi je dis comme je le ressens, parce que j'estime qu'il faut respecter tout le monde. Voilà. Donc, ils n'ont pas été élus, c'est Macron qui a été élu dans certaines conditions. Je suis d'accord, à 100% d'accord, mais maintenant, il faut avancer. Ça ne sert à rien d'être violent. Qu'on manifeste, ok. Qu'on empêche les gens de travailler, non.
Non, bravo, madame, Maria. Merci beaucoup, Maria. Deux, madame. Merci mille fois, madame.
Maria.
C'est ça le respect des autres.
Maria. Allô? Oui. Pour négocier et avancer, il faut être deux. Il faut que les deux parties se parlent, en fait.
D'accord.
Et quand celui qui a le pouvoir ignore la masse qui n'a pas le pouvoir, qui lui a délégué le pouvoir et qui n'est pas d'accord, comment on fait pour avancer ensemble quand on est ignoré et méprisé depuis des mois par celui qui a le pouvoir?
Je
vous pose la question, en fait.
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous.
Mais si,
vous
je suis pas pour la casser.
En menaçant des gens, non, en menaçant de tuer leur famille, menaçant de tuer qui père, mère.
Madame, je suis au GG. Voilà. Je laisse deux jours de ma vie pour venir ici. Non, mais attendez, vous allez comprendre, comme l'a dit Mehdi.
Oui.
Ils ont même retrouvé mon adresse et ils m'ont envoyé des menaces de mort à la maison à l'époque de Zemmour, là, en campagne, etc. Donc, quand on est exposé, même si on n'est pas des élus, qu'on n'a aucune responsabilité autour de ce plateau, mais on reçoit des insultes. Je ne les cautionne pas, madame. Bon. Seulement, je vous dis, dans un rapport de force et dans une négociation qui oppose le gouvernement au peuple, les sondages nous disent, et la rue nous montre, enfin les manifestations et les mobilisations depuis 3 mois, qu'il y a au moins qu'il y a au moins 75% des Français qui sont de manière constante contre cette réforme. D'accord? Donc aujourd'hui, moi je vous pose la question, malgré cette mobilisation, malgré ces sondages à répétition, le gouvernement reste sourd. Moi je pose la question à tous ceux, et moi la première, qui dénoncent ces violences, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui comme moyen d'expression pour faire réagir le gouvernement?
Pour vous, c'est la violence qui reste?
Non, je dis pas. Il nous reste rien, madame, excusez-moi, quand vous faites le 49-3, il vous reste quoi?
Madame, ils ont fait quoi? Ils ont
Pardon
fait quoi?
Ils n'ont pas pu voter à l'Assemblée, madame.
Ils ont tout fait pour qu'il n'y ait pas de vote.
Moi, je suis ancienne aide-soignante, madame. Je suis ancienne aide-soignante.
Oui.
Donc, je sais ce que c'est que trimer tous les jours. Je sais ce que c'est lever à 5 heures, se coucher à 22 heures avec un salaire de merde. Je suis retraitée aujourd'hui pour des raisons de santé et je touche une merde. Voilà.
Mais madame,
voilà, il faut avancer quand même. On n'a pas le choix.
Mais je vous demande comment on avance.
C'est nos petits-enfants devant qui ont besoin. Il faut aussi écouter ça.
Mais madame,
y a des gens qui se rendent pas compte parce qu'ils sont des nantis ou ainsi de suite. Eux, ils en ont rien à foutre, ces gens-là.
Mais madame, voilà, on n'est pas des nantis, nous qui manifestons dans la rue, nous sommes des ouvriers.
J'ai pas dit vous, excusez-moi, voilà. J'ai jamais nommé, voilà.
Et donc, moi je pose la question.
La violence. Non, moi je suis pas d'accord.
Ok, on la condamne.
Les gens qu'on brûle leur magasin, les gens qui sont touchés, les policiers qui sont blessés. Est-ce que quelqu'un en parle de ça?
Mais madame, non, on la condamne. Madame, on la condamne.
Vous ne
répondez pas à ma question, en fait. Moi je pose une question simple. Quand il y a un rapport de force.
D'accord, on l'a posé 4 fois.
Oui, mais elle répond pas à la violence.
Tu la condamnes sans la condamner. Parce que tu dis, non, qu'est-ce qui nous reste? Donc, il reste que la violence.
Oui, t'es très ambigu dans ces
mots. Non, je suis pas ambigu, c'est très clair. Si,
tu la condamnes pas.
Tu m'as cité les gilets jaunes violents.
Oui. J'ai dit que le gouvernement a donné pour habitude, que ce soit une erreur ou pas, je ne suis pas le gouvernement. On fait un constat, j'ai le droit de faire un constat. Donc, le gouvernement nous prouve que lorsqu'il y a un groupe de personnes qui est ultra violent, ils sont écoutés et le gouvernement se plie. Et lorsqu'il y a une majorité beaucoup plus nombreuse que les Gilets jaunes qui manifestent et qui a des revendications de manière paisible depuis des semaines, ils ne sont pas écoutés. Donc moi, je pose la question. C'est un constat, c'est pas que j'ai pas le droit, mais dis ce que je veux. D'accord ? Mais bien sûr, je le dis, c'est la vérité. D'accord ? Excuse-moi, c'est la vérité, c'est un constat, c'est factuel, les gars.
C'est tout, on a le droit de te dire que c'est dangereux de dire ça parce que ça laisse entendre.
Donc il faut pas dire à Camter. Dans ces cas-là, vous avez une tribune le matin et le soir. Les garçons de 3h et de 2h, vous avez 5h de tribune et les politiques que vous recevez, il faut leur dire, les gars, vous jouez un jeu qui est dangereux, vous provoquez la rue, il faut les recevoir parce que ça va nous péter à la gueule. Mais c'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à ceux qui ont le pouvoir.
Tout le monde doit être responsable, les gens dans la rue sont pas des enfants non plus, chacun est adulte.
Oui, mais
chacun est responsable de ses actes, je suis désolé. Quand tu pètes la permanence d'un élu, tu es responsable de tes actes et tu peux pas dire, ah c'est pas de ma faute, je suis tellement en colère que tu comprends, je pète.
Ouais, mais quand tu te prends pour un con pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 6 ans,
les citoyens sont des adultes. Quand tu pètes quelque chose, tu dois l'assumer. Ouais. J'ai lu un coup de tweet de Clémentine Autain qui dit « On a nassé un enfant de 1 an dans une manif. » Mais qu'est-ce qu'on fout avec un enfant de 1 an dans une manif? Mais
et merde,
les parents sont responsables. Non, t'emmènes pas un bébé dans une manif.
Excuse-moi.
On est tous responsables de ses actes.
Excuse-moi, moi j'ai toujours eu mon fils dans les manifs.
C'est une erreur.
Non, c'est pas une erreur. J'ai pas le choix. Je peux pas être que sa mère ou que... Mais non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme quand mon fils s'est blessé il y a 3 semaines et on m'a dit oui, tu es mauvaise mère parce que tu le laisses et tu vas travailler à Paris. C'est un travail ici pour moi. Je vais pas faire de la figuration. Je suis pas un épouvantail. Non, mais excuse-moi. Si je viens pas, je gagne pas ma vie.
Quel est le rapport?
Non, mais je veux comprendre. C'est pareil. Quand je vais dans la rue manifester, c'est parce que je crois. Je vais terminer ma phrase.
On se retrouve dans un instant.
C'est important. Et tu n'as pas le droit de faire culpabiliser. Parce que je suis une personne militante.
Tu vas défendre les gens qui vont avec des bébés dans les manifs.
Maria me disait qu'on ne peut pas cautionner les violences. On verra ce qu'en dit Frédéric dans un instant avec les grandes gueules. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Est-ce que vous comprenez les violences contre les élus ou au contraire, il faut les condamner et sans réserve aucune? Frédéric, bonjour.
Bonjour à vous.
On en discute dans les grandes gueules. Et qu'en dites-vous, mon cher Frédéric, consultant du côté de la Seine-Saint-Denis, alors?
Écoutez, moi, j'en dis simplement qu'aujourd'hui, on est à un point de non-retour. Mm-hmm. Voilà. On est à un point de non-retour parce que ce que nos chers élus, qui vivent gracieusement aujourd'hui grâce à nous, il ne faut pas l'oublier, ont juste oublié un tout petit élément. C'est que on est passé par le Covid. On est passé par l'Ukraine, on passe maintenant par les retraites et ils n'arrivent toujours pas à concevoir qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont tout perdu et n'ont plus rien à perdre et aujourd'hui en arrivent à malheureusement ces débordements pour tenter de subsister. Et tant qu'ils n'auront pas assimilé ça et compris ça simplement parce qu'ils sont hors sol, malheureusement on n'avancera pas. Moi je condamne ces violences. Je suis contre ces violences parce que je pars du principe que malheureusement, sur le long terme, elles ne vont pas faire bouger les lignes parce qu'on est face à un gouvernement qui... qui est totalement hors sol et qui en a strictement rien à carrer, pourtant, du peuple qui l'a mis au pouvoir. Et le problème, c'est que comment ça va se terminer? Est-ce que on va partir à une guerre civile parce que, effectivement, vous l'avez dit tantôt, il y a des mouvements qui sont ultra radicaux et qui, comme je le dis en préambule, n'ont plus rien à perdre parce que beaucoup ont déjà tout perdu. Mais comment ça va se terminer? Maintenant, si on prend le problème dans l'autre sens, le peuple est également responsable. Et ça, il faut aussi l'admettre. À un moment donné, on est 68 millions dans ce pays, d'accord ? Les syndicats s'excitent parce qu'il y a eu 1 million, 1,5 million dans la rue. Il n'y a pas besoin d'aller à l'école pour faire des pourcentages. Il y a 30 millions d'actifs en France. Il y a 1,5 million qui est dans la rue. Donc, à un moment donné, il va falloir remettre aussi les pendules à l'heure, parce que c'est bien beau maintenant d'aller saler ouin-ouin dans la rue et de vouloir tout casser. Quand on a eu l'occasion de voter, les trois quarts, ils avaient voté François Hollande à l'époque. Ils ont vu ce que ça a donné. Ils nous ont mis Macron. Ils nous remettent Macron. Et ils s'étonnent de la merde dans laquelle on est, alors que le mec, au final, que je l'aime ou que je l'aime pas, il a été transparent. Il peut pas dire que cette mesure, il allait pas la passer. Il peut pas dire qu'elle était pas dans les tuyaux. Donc, si les Français, à un moment donné, sont amnésiques, hein, et oublient.
Ils n'ont qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, quoi. C'est ça, c'est ce que vous dites.
Ben rappelons qu'on a voté il y a moins d'un an, deux fois, pour la présidentielle et pour les législatives, et à chaque fois, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui sont dans la rue sont ceux qui ont voté Macron. Donc, c'est quand même.
Ils ont voté Macron contre Marine Le Pen.
Et les socialistes.
On vote toujours contre quelque chose, oui, au deuxième tour.
Et les socialistes qui nous font des leçons.
Le principe du deuxième tour, on vote toujours contre.
Mais madame, c'est facile de dire oui, j'ai voté contre Marine Le Pen. Madame, peu importe les convictions politiques qu'on a, regardez, vous certainement vous avez voté pour Macron. Regardez aujourd'hui, vous êtes la première à gueuler.
Moi j'ai voté contre Marine Le Pen.
Mais t'as voté pour Macron.
Et ben au final, madame, en votant contre Marine Le Pen, ne vous étonnez pas au final de ce que vous avez mis au bout au pouvoir.
J'ai pas fait le jeu, monsieur, parce qu'il avait dit qu'il était obligé, mais de toute évidence, il a menti en direct, droit dans les yeux, le premier soir de ses élections.
Il a pas dit qu'il
n'a
pas sa réforme des retraites, parce qu'il est législatif.
Il condamne les violences. Nous sommes avec le député Renaissance des Côtes d'Armor, Éric Botorel. Bonjour, monsieur le député.
Bonjour.
Que vous est-il arrivé, vous, en tant qu'élu, alors, comme type de menace ou de violence, monsieur le député Botorel?
Moi, j'ai mon nom en peinture avec marqué Botorel au bûcher ou Botorel dans le Léguerre. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Léguerre, c'est une rivière qui coule à côté de l'Agnon. Mm-hmm.
Et donc aujourd'hui, vous dites stop, ça suffit, quoi.
Non, mais de toute façon, j'ai toujours dit stop dès que dans le cadre de ce qu'on peut considérer comme étant du folklore, c'est-à-dire taguer quelques slogans sur des murs, on franchisse le pas de celui qui devient clairement une menace à mon intégrité. Vous savez, moi, je fais la différence entre ce qui est l'attaque de mon mandat ou la contestation de mon mandat et celui de ma personne. C'est comme ça qu'on résiste, en définitive, et que avec un peu de recul, on peut vivre certains événements qui peuvent être par ailleurs traumatiques. Mais dès lors qu'on s'en prend à ma personne ou que nominativement les menaces sont orientées vers ma personne, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, je vais déposer plainte parce que n'importe qui à ma place fait la même chose.
Mais que répondez-vous à ceux qui disent, et on avait la discussion il y a 2 minutes sur le plateau avec Aouter Ben Mohamed notamment, qui disent finalement le problème c'est que les responsables politiques ont pris l'habitude de céder face à la violence, les gilets jaunes, on pourra se souvenir aussi des bonnets rouges avec l'écotax, et donc forcément on est rentré dans un jeu ambigu. Beaucoup disent, mais maintenant puisque vous n'avez pas écouté les manifestations pacifiques organisées par Laurent Berger et Philippe Martinez, maintenant c'est la violence.
D'abord, dans notre pays, il peut arriver que certains mouvements de contestation cèdent la place à des mouvements de contestation plus radicaux. Donc, il faudra regarder rétrospectivement si à chaque fois le pouvoir a cédé. Je ne crois pas. On pourra
souvent.
Faire la démonstration.
Souvent.
Non.
En tout cas, les macronistes. Bah,
je viens de vous citer deux exemples. Voilà. Les gilets jaunes, c'était Macron a cédé quand.
Puis depuis 1789, je crois qu'on a quelques exemples.
Non mais attendez, sur les gilets jaunes, il ne me semble pas qu'on ait en quoi que ce soit cédé ou...
La taxe carbone a été supprimée et on a dépensé plus de 10 milliards d'euros à l'époque.
Non, mais on a mis sur la table de quoi réconcilier un pays qui était en train de se fracturer et on a poursuivi un certain nombre de réformes dont j'observe aujourd'hui que de nouveau et toujours les Gilets jaunes sont restés constants dans leurs revendications. Je ne crois pas qu'on ait satisfait la partie la plus radicale des Gilets jaunes, si c'est ce que
vous voulez me dire. Mais vous avez satisfait une partie, monsieur, mais là aujourd'hui vous satisfaisez qui en fait?
Mais vous êtes satisfait qui de quoi
Je sais pas, il y a des manifestations. Je sais pas si vous vivez en France ou si vous vivez dans une grotte. Je crois qu'il y a des manifestations non-stop.
Bon, on n'est pas obligé de ce genre de formule, pardon. Moi, je
peux terminer ma phrase pour vous dire ce.
Voilà. Ouais, mais je vis pas dans une grotte. Si ça permet de clarifier votre question.
Bah, où que vous viviez, je vous invite à ouvrir les yeux et à voir qu'en fait il y a des Français qui sont mobilisés en nombre dans toutes les villes, y compris les petites villes, depuis bientôt 3 mois. Et que tous les sondages, toutes chaînes confondues, donnent entre 65 et 85% de mécontentement et de personnes qui s'expriment contre la réforme de la retraite. Vous et votre gouvernement avez fait quoi pour recevoir ces personnes de manière organisée, c'est-à-dire les syndicats ou les autres? À quel moment vous les avez écoutés, vous les avez reçus et vous avez négocié?
Ben vous êtes mal tombé avec moi. D'abord, faut pas être méprisant avec les Bretons. On vit pas dans des grottes, pas plus moi que le reste de la Bretagne.
Ensuite, c'était pas du mépris, monsieur.
Ensuite, bah, c'était ce que vous souhaitez.
Pas du tout.
Mais moi, j'ai reçu des organisations syndicales. Donc, par rapport à la question que vous posez de savoir qui on aurait reçu, j'ai toujours été dans le dialogue. Je viens de raccrocher avec mon représentant de la CGT. Nous avons un dialogue permanent. Est-ce que ça veut dire derrière que parce que on s'écoute, on finit par s'entendre? Je suis pas tout à fait sûr. C'est évidemment le jeu. Observez que sur la réforme pour laquelle j'avais fait campagne l'été dernier, après la campagne présidentielle qui prévoyait le recul de l'âge légal à 65 ans, il y a eu un bouger. Alors, le bouger, il est à 64. Il ne satisfait pas ceux qui voudraient la retraite à 55. Je l'ai entendu à l'Assemblée nationale, 60 ou 62. Mais dire qu'il n'y a pas de dialogue et qu'il n'y a pas eu de possibilité d'intégrer dans la réforme telle qu'elle existe aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui étaient demandés par tel ou tel parti.
Enfin, reconnaissez, vous n'avez pas réussi à convaincre que vous aviez fait des concessions.
Je vous reconnais volontiers. Je répondais à la question précédente de madame. Qui était de savoir à quel moment vous avez reçu...
Je parlais du gouvernement, monsieur, et du président de la République.
Avec le 49-3 à la clé, quoi, en fait. Voilà. Il aurait fallu aller au vote. Et puis,
mais monsieur le député, si là, je pense que...
Vous regrettez...
Pardon, juste termine. Si on est précis, puisque dans la question précédente, c'était vous ou les membres du gouvernement. J'ai répondu vous.
Vous, les députés et les membres du gouvernement, pour moi, c'est les ministres. Donc, j'ai pas été assez précise. Donc, vous, les députés à l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, c'est-à-dire Madame Borne et ses ministres et le président. C'est-à-dire que la réponse ne peut pas être isolée en Bretagne ou à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse est globale parce que le mouvement est global, monsieur.
Mais monsieur le député, je ne peux pas vous écouter et en même temps d'essayer de répondre précisément à votre question. Donc, j'ai répondu précisément à la question. Oui, pardon, monsieur.
Oui, monsieur le député, moi, je voulais vous dire, ça va être compliqué quand même votre mandat, là, les 4 prochaines années, mais là, parce qu'en fin de compte, on vous a élu, et j'imagine que vous avez élu parce que vous avez parlé correctement à vos administrés, et puis là, votre gouvernement et puis vos amis de Renaissance, bah, ils vous empêchent de faire votre boulot, donc moi je serai vous, je monterai plus à l'Assemblée, parce que de toute façon, ce qui va se passer dans les 4 prochaines années, ça va être à coup de 49-3, et moi je trouve ça dommage qu'on élise des gens. Si moi déjà, moi je vote pas, et je sais pourquoi je vote pas, et derrière, après les mecs, vous mettez dans l'Assemblée, et vous n'avez pas le droit de faire votre taf. Moi je trouve ça dommage. Et moi je pense réellement que vous administrez, à qui vous devez faire du dialogue social, mais malheureusement vous êtes peut-être pas assez nombreux. Moi je pense que vous administrez doivent être un peu en colère de se dire, bah on a élu un des députés, et puis quand il monte là-haut, on le laisse pas parler,
allez-y,
on laisse pas faire son boulot.
Monsieur le député Botorel.
Oui, alors d'abord, en 2022, j'aurais donc été réélu avec 53% des voix et à peu près 1000 voix de mieux qu'en 2017, mais ça ne donne pas un blanc-seing pour faire ce que l'on veut de notre pays. Le paradoxe que vous pointez, c'est que d'abord les Français ont souhaité cette majorité relative, l'ont confirmé dans les sondages en mois de juillet, et le paradoxe de la journée de jeudi, c'est que jeudi, on passe avec un 49-3 sur le projet de loi de finances sur les retraites. Et dans la soirée, puisque nous siégeons, je ne dis pas que les affaires continuent, mais presque, nous adoptons un texte sur l'accélération de la production d'énergie nucléaire avec des voix du Front National, avec des voix du Parti communiste, avec des voix du Parti socialiste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que entre la réforme des retraites qui cristallise aujourd'hui le fait que nous serions empêchés dans les réformes du pays, se cache derrière des textes que nous avons adoptés depuis des semaines et des mois. Je dis pas que tout est parfait. Je dis qu'il y a un paradoxe dans l'air qui fait qu'on ne peut pas être totalement surpris qu'on ait recours de temps en temps au 49.3, même si je le dis.
Mais voilà, pourquoi avoir dit qu'il fallait pas passer par 49.3? D'accord, mais il fallait l'assumer tout de suite. Le problème, c'est qu'on a entendu Emmanuel Macron, les ministres, la première ministre, nous dire jour après jour, la semaine dernière, on ne fera pas le 49.3, il faut un vote. Dans ce cas-là, il fallait l'assumer tout de suite.
Mais je l'ai moi-même regretté, donc je suis pas en train de me cacher.
Il fallait l'assumer tout de suite.
Non, mais je suis cohérent, mais admettez que les sujets sont un peu plus nuancés que simplement réduire le fait que l'exercice à l'Assemblée nationale soit totalement empêché. Pardon de réintroduire qu'à date, au moment où je vous parle, depuis plusieurs semaines et avec une majorité relative, textes ont été adoptés. Et
puis, merci. C'est pas des textes. Merci, monsieur le député Botorel. Merci d'avoir été avec nous, député de Bretagne.
Ça se passe en Bretagne.
Mehdi, dernier mot.
Non, mais les socialistes et les partis de gauche qui nous font les leçons de justice sociale après avoir imposé sous le mandat de François Hollande avec la loi Touraine 43 exactement. Années de cotisation sociale, c'est de l'hypocrisie. Tout le monde se fout de la gueule de tout le monde et tout le monde est content et après tout le monde c'est des petits moutons comme je l'ai dit souvent, voilà. François Hollande a fait une loi avec Touraine avec la ministre Touraine de 43 ans de cotisation sociale et là s'il vous plaît alors que la moyenne d'âge pour commencer à cotiser de 26 ans quand tu fais 26 plus 43, fais tes calculs.
Alors, stop aux violences, élus menacés, mairie vandalisée, stop aux violences. On va regarder le résultat de la consultation. C'est non, 56%. Vous voyez, pas de stop aux violences, donc la colère, elle est là, elle est bien là. Elle est ancrée dans le pays.
C'est très dangereux.
Elle est majoritaire, elle veut passer à l'action, cette colère. Voilà. Dans un instant, les indiscrets GG avec les LR qui tentent de se ressouder. Pas simple. Et puis, on aura le quiz des grandes gueules.
RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story. Les grandes gueules en direct tous les jours de 9h à midi. Les amis, tous les jours avec aujourd'hui Mehdi Guézard, avec Bruno Poncet, avec Kaouter Ben Mohamed. C'est l'heure des indiscrets GG.
RMC Les Grandes Gueules.
Les Indiscrets.
Avec Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour mon cher Romain.
Bonjour Alain et bonjour les grandes gueules.
Après la fracture sur la question des retraites, les députés, les Républicains tentent de recoller les morceaux.
Oui, et dans cette optique, deux députés sont chargés d'organiser un séminaire de cohésion qui doit avoir lieu d'ici le mois de mai. Une sorte de thérapie de groupe après des semaines plus qu'agitées sur la réforme des retraites et un groupe divisé en trois, entre les pros, les anti-réformes et les abstentionnistes. Une défiance exprimée par le patron des LR, Éric Ciotti, lors d'une réunion de groupe la semaine dernière. On se regarde en chien de faïence et les divergences ne sont pas terminées puisque cet après-midi, une poignée de députés LR vont défier les consignes du parti en votant au moins l'une des motions de censure.
Alors à quoi va servir cette réunion ?
Eh bien les 61 députés LR se retrouvent en plein doute et les chantiers se multiplient avec cette première question : que faire des députés qui vont voter une motion de censure cet après-midi ? Le député Alexandre Vincent Day, plutôt Macron compatible, appelle publiquement à les exclure du groupe. D'autres sont plus partagés sur le sujet, mais une question demeure. Peut-on continuer à travailler ensemble, s'interroge à haute voix le député. On a peur d'une fracture qui ne soit pas forcément réparable, renchérit une autre. L'objectif de ce séminaire est affiché, tenter de trouver une meilleure cohésion au sein du groupe. Pour plus de loyauté, certains n'ont pas joué le jeu du collectif, regrette une élue de droite.
Alors, et parmi les personnalités les plus clivantes chez les Républicains, il y en a une qui focalise toute l'attention depuis plusieurs semaines déjà, c'est Aurélien Pradier.
Et oui, le député du Lot a clairement marqué sa rupture avec la ligne du parti ces dernières semaines. D'ailleurs, ce matin, Aurélien Pradier a annoncé qu'il votera la motion censure du groupe indépendant Lyot. Un nouveau signe de son détachement avec la ligne du parti. D'ailleurs, l'idée d'un séminaire de cohésion amuse les pros Pradier, a priori pas très emballés par l'idée. On va faire quoi ? Un twister géant, se marre l'un d'eux. Et ce positionnement jugé par certains comme une initiative personnelle commence à franchement irriter certains de leurs collègues. Soit ça s'améliore, soit il va falloir un arbitrage. On a un problème, là, s'agace un élu, qui se fixe comme dernière chance la loi immigration prévue à l'Assemblée avant l'été. Il va falloir du temps pour que les rancœurs disparaissent, résume un peu fataliste une députée pro-réforme des retraites.
Ah, c'est sûr que pour les Républicains, ça va être compliqué, là. Ouais.
Pardon, mais celui qui a échoué, c'est, enfin, ils sont deux, c'est Éric Ciotti et Olivier Marleix. À la limite, Olivier Marleix devrait démissionner du groupe, puisqu'il n'a pas su, finalement, tenir ses troupes, imposer un vote commun. Donc, Olivier Marleix a échoué, et Éric Ciotti également. Le seul qui s'en est bien tiré, c'est Aurélien Pradier. À la limite, c'est lui qui devrait prendre le groupe. Il a au moins une ligne. Alors après, bien sûr, il est dans les calculs, ils sont tous dans les calculs politiques. Il a une ligne, il l'a défendu, il a réussi, finalement, à pousser le gouvernement à la faute, à utiliser 49-3, parce que ce que d'ailleurs souhaitaient aussi les Insoumis. Les Insoumis voulaient qu'il y ait un 49-3, parce que c'est le meilleur moyen de dire, voyez, Macron dénie démocratie. Ceux qui ont vraiment fait de la politique dans cette histoire, c'est Pradier, c'est d'autres, et c'est pas Olivier Marleix, c'est Éric Ciotti.
Et paradoxalement, même ceux qui sont contre la réforme défendent plutôt, à part les Pradieristes, mais les quelques-uns qui sont contre la réforme, défendent Olivier Marleix et Éric Ciotti en disant ils ont fait de leur mieux, ils ont quand même apporté 30 voix.
Ils ont été nuls.
Pas forcément actés.
Ils ont été nuls.
Et puis il y a le planqué. Il y a le grand planqué aussi.
Laurent Wauquiez. Il est en immersion dans un Intermarché.
J'ai vu ça aujourd'hui. Immersion dans une grande surface. Il se cache en fait. Il se cache dans une grande surface.
Mais c'est
là où on ne pourra pas le trouver quoi en fait. Tu sais,
c'est les paniers anti-inflation.
Non mais c'est là ceux qui ont des prétentions pour 2027 à un moment où le pays comme ça est troublé, est en colère, où il y a de la violence, où il y a un gouvernement dont on remet en cause la légitimité, tu pourrais dire qu'il y a des personnalités qui devraient émerger, qui devraient sortir. Bon, Valérie Pécresse, elle est démonétisée depuis son score à la présidentielle, mais c'est compliqué quand même.
Non, mais moi, ce que je trouve bien, moi, le seul truc que Macron a fait de bien, c'est qu'il aura tué ces vieux partis politiques qui se foutent de la gueule des gens depuis des années, qui font le contraire de ce qu'ils disent dans leur programme. Au moins, avec Macron, il aura fait péter ça. Alors là, c'est le seul truc de bien qu'on pourrait dire. Et moi, je pense qu'une fois qu'il va faire rentrer le Front National dans à la présidence de la République, ce qui va se passer dans 5 ans, vu comment il se comporte là, forcément, il nous emmène le RN directement. Mais par contre, au moins, il aura fait péter ces vieux partis qui nous ont menti. Enfin, je vais te dire, là, on est sur les LR. Ce parti, il n'existe plus. Il est sous perfusion depuis des années. Mais, comme moi, qui ont 50 piges, on n'a pas oublié les trahisons de la gauche depuis des années. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tous ces vieux partis qui font toujours le contraire de ce qu'ils disent, qui te font des programmes. Moi, je me rappelle toujours de Hollande qui t'explique la finance, c'est mon ennemi, puis que derrière, qui t'enfile la loi travail, qui te met tout le reste, et puis qu'à la fin, tu te retrouves. Nous, les travailleurs, on s'est retrouvés après oppressés comme jamais on l'a été depuis Hollande. Donc voilà, malheureusement, voilà, et là, les LR, je pense que c'est la fin du monde.
Depuis 2007, il n'y a plus de droite, de vraie droite française.
Depuis Sarko,
depuis l'UMP, ils ont essayé de changer de nom, ils ont essayé de changer de président à 15 fois, ils ont essayé de changer.
Il y avait du droit, il y avait du Fillon.
Mais à un moment, elle est un peu au pouvoir avec Darmanin, avec Bruno Le Maire.
Macron aussi, il n'est pas de gauche, faut arrêter. Mehdi, t'es bien d'accord avec moi quand même.
Mais Macron, on ne sait pas de quoi il est. On ne sait pas si un jour de gauche, un jour de droite, un jour de centre. Ça dépend des jours, ça dépend de ses humeurs. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'il y a un nouveau visage politique complet avec Édouard Philippe, avec Horizon, avec. Mais la droite, je pense que. Voilà, c'est plus à peine d'en parler.
Merci Monsieur Romain Cluzel.
Merci à vous.
On va
à
passer
demain
au quiz des grandes gueules.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Ça le change de son pyjama panda de vendredi dernier.
Oreiller,
il est habillé normalement. Ça, il est habillé comme un Castelrousse, hein, quoi. Tu sais.
Toi aussi, t'es habillé normalement.
Ouais, mais comme
merde.
Moi, je suis habillé comme ça pour mes fans.
J'aime bien la blague. Bonjour Monsieur Louis Gerbier.
Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Savez-vous quel jour on est aujourd'hui?
Lundi.
Ouais, pas mal.
20 mars.
Le printemps, c'est demain.
Le printemps. Bah non. Et non, c'est aujourd'hui. Piège, c'est aujourd'hui.
Ah bon?
Et ouais, on est printemps. Et alors pourquoi aujourd'hui? Du coup, vous aviez pas l'air de le savoir, donc je vais vous dire. L'équinoxe du printemps, c'est précisément lieu aujourd'hui à 22h24.
Ah, on n'y est pas encore, là.
Non. Et jusqu'à la fin du siècle, ça sera le 20 mars. C'est une histoire d'équinoxe, d'inclinaison de la Terre. On appellera Daniel Riolo pour le spécialiste. Vous rappelez, exactement. Vous avez expliqué le Big Bang, ça vous dit
quel cerveau, c'est Louis Gerbier quand même.
Enfin, les gens de Château,
les Castel Roussin, ils sont bons. Ouais.
Ah, il y a des génies quand même.
Pas bon en foot, mais
le CNRS, c'est Châteauroux, recherche.
Recherche scientifique.
Bon, bref, arrêtons ça. Le printemps arabe, c'était en quelle année?
2011, janvier 2011. 14 janvier.
Bien joué. Ouais. En 2011.
C'est parti de Tunisie d'ailleurs.
Ouais, là-bas. Tu y étais, Kaouter ?
Yes.
Ah, près de 18 jours de révolution et la chute d'une présidence en Égypte, un père de famille a choisi un prénom pour sa fille. Le prénom était évident, mais aussi très insolite. Comment il a appelé sa fille à l'époque ? C'était en 2011, donc en Égypte, à la suite du printemps arabe.
Moubarak ?
Non.
Ben Ali.
C'est plus en lien avec comment c'est monté. Vous vous rappelez comment c'était monté par les réseaux sociaux.
Oui. Ouais. Facebook.
Exactement.
Il a appelé Facebook.
Il avait appelé sa fille Facebook. Aujourd'hui, du coup, la petite Facebook va bientôt fêter ses 12 ans. On la salue.
Si, alors, prononce Facebook avec l'accent arabe, Mehdi.
Facebook. Je suis pas moi qui ai dit Facebook en arabe.
Mais non, mais j'en sais rien. Je suis sûr que t'allais plonger dans le truc.
Facebook. Je sais pas, moi.
Alors, moi, il y en a une qui sait se tenir.
Je passe pour le tour.
Vas-y, continue.
Bon Bruno, je sais que ça t'avait manqué. On va faire un petit blind test. Petit blind test sur le printemps, comme c'est aujourd'hui.
Les chansons du printemps.
Exactement. Et alors là, je t'ai mis que des tubes. J'y suis allé franco.
C'est sûr que j'ai entendu Michel Fugain.
Je parle pas du dictateur.
Fonce.
Allez, premier extrait. Me lis un livre ouvert.
Michel Fugain, c'est pas vrai.
Si tu commences à nous mettre que des musiques qui ont 30 ans. Ouais,
30 ans, mais t'entends, c'est jeune pour lui. C'est fou.
C'est le principe de mes blind tests souvent. Ah, on adore Michel. Donc c'est le printemps Michel et on enchaîne encore avec de la pépite.
Hugo Frey.
Paf, bravo Kauter. Hugo Frey en 2 secondes.
Oui mais quelle chanson?
Bon, ça porte son nom hein. Ouais, voilà. Enfin que le printemps revient. Chanson, troisième chanson. Attention, on va de plus en plus haut. Là c'est le plus grand.
Au printemps.
Jacques Brenne.
Au printemps.
Magnifique Olivier.
Et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps.
Non, mais Brenne,
la chanson française. Ton cœur et mon cœur sont repeints au vin blanc. Ouais. C'est bien ce qu'il a dit.
Ça vous parle. Ça
c'est boire à l'époque.
Ça parle à Louis.
Ça aujourd'hui, tu peux plus le passer. Là, t'as les ligues anti-alcooliques qui te tombent dessus. Allez, continue.
T'as 2-3 paroles dans le rap quand même qui sont un peu. Qui
sont un peu pro-drogue.
Tu peux y aller quand même.
Vas-y.
Ça, c'était dans le printemps, dans l'album au printemps en 58. On enchaîne encore avec la plus grande peut-être.
Edith.
Oui.
Marion Cotillard. Ah non,
c'est pas elle. C'est
Landman. Ah, je suis fort.
Chanson de René Rouzeau et Marguerite Monod. Enfin le printemps. Ah ouais, ouais.
Olivier l'a prise à l'école.
Vous en apprenez. Hein.
Attention.
Et là on finit avec l'électrifiant.
Que tu n'as pas vu. Oh putain, moi
j'ai Claude François.
Alors, t'as jamais supporté Claude François?
Ah non, pour moi c'est.
Je supporte rien.
Si, moi je supporte le chaos. Mais c'est ça, Claude François, c'est. Pour moi c'est vraiment le truc que j'ai déjà qui va.
Ah ouais?
Pourquoi?
Je trouve ça nul, je n'aime pas du tout. Moi. Enfin, pour moi c'est. Puis j'ai l'impression que c'était un homme très agréable en plus. J'ai vu 2-3 trucs.
C'est sympathique.
Oui, ça va être un homme sympa, ouais. France Gall s'en souvient encore, la pauvre. Non, mais franchement, Claude François.
Ouais, d'accord.
Chacun ses goûts, Louis.
Je voulais te plaire, moi, Bruno, je suis désolé.
Ah, je me plaire.
Là, c'est le meilleur moment.
Oui. Et de quelle version tu nous as trouvé là? Parce qu'elle est inaudible, ça a été
inaudible.
C'est enregistré dans les toilettes de l'Olympia.
C'était un live, ouais.
Ouais, dans les toilettes de l'Olympia.
Le live de Claude François.
Moi, j'aime le live, j'aime quand tu vois quand il y a la pression.
On prend rien.
Surtout,
accessoirement.
Surtout quand tu sais pas chanter, ouais.
Et pour finir, je continue avec mon QQGG, les questions pour le quiz des grandes gueules. Vous avez le hashtag sur Twitter si vous voulez poser des questions à vos grandes gueules. Et là, c'est Clermont du Pèlerin. Il s'appelle Clermont, ça doit être un pseudo, mais on le salue. Qui vous demande quelle taille faisait le ver solitaire le plus long retrouvé chez l'homme. C'était un Thaïlandais.
22 mètres.
Alors, attends. 22 pour Bruno. Je peux raconter une anecdote personnelle?
Mais vas-y.
T'as gardé une photo?
À 19 ans, il faisait 7 mètres.
Oh! Ah, bravo.
Est-ce que t'as gardé une photo?
Non, à l'époque, t'avais pas les portes.
Alors que le ver solitaire de Bruno, c'est en centimètres, je crois.
Non, c'est 22. C'est pas mon ver de terre en centimètres. 22 mètres, moi, je te dis que là, le gars, il a
pas mal. Pas mal.
25. Nourriture.
Moi, entre 25 et 22.
12.
Ah, 15.
Allez, Mehdi, 19.
Ah, c'est Mehdi qui a gagné. 18. 18 mètres.
T'as la vache.
18 mètres, c'est à 2 mètres près un terrain de basket. Je vous laisse.
Comment on peut avoir 18 mètres dans
si, parce que t'as des boyaux.
Mais apparemment, on a 25 mètres de.
Parce qu'en fait, c'est une boule. C'est comme une espèce de caoutchouc. Imagine une pâte, une nouille plate, quoi, en fait. C'est ça. Et donc, ça se met en boule et ça se met dans le bide. Et pourquoi est-ce que à l'époque les médecins se demandaient de l'étaler? Parce qu'il fallait voir s'il y avait la tête.
Ouais, la tête.
Parce que comme c'est un parasite, ça se met dans le bide et ça se nourrit de tout ce que tu ingurgites. Et moi je m'étais évanoui en classe et c'est comme ça qu'on avait découvert que j'avais un ver solitaire.
T'as le délire.
Et donc à la maison, t'appelles le médecin et il dit, bah, regarde si elle a la tête, et dans ces cas-là, et ben voilà.
Tu l'as empaillé ou pas? Est-ce que et tu l'as empaillé pour le mettre sur la
cheminée? J'en ai fait une lampe, un abat-jour. Allez, dans un instant, suite des GG avec le à vous de choisir.
RMC, jusqu'à midi,
les grandes gueules.